Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio.
Lundi, midi, les points sur les i.
Bonjour.
Bonjour.
Et on ne pourra que relayer Brigitte Fontaine qui, à l'instant, disait simplement « N'ayez pas peur ».
Christophe, salut.
Bonjour.
Aujourd'hui présent, donc, Simon.
Bonjour.
Benjamin.
Bonjour encore.
Justin et Marine vont arriver et Bibi aux manettes. Par quoi on commence, les amis ?
Par quoi on commence ? Eh bien, peut-être que avant de commencer à parler de ce qui, évidemment, trotte dans l'actualité de tout le monde, je vais simplement commencer par continuer, reprendre la chronique avortée de la semaine dernière, qui relayait donc une déclaration de soldats du contingent. Une déclaration collective sur la crise migratoire par le Dictio Spartacos, donc réseau Spartacus, que je décrirai rapidement après lecture de quelques passages de leur appel. Un appel qui, dont le texte original a été signé par 38 unités de l'armée grecque, et aujourd'hui signé désormais par 50 des soldats de 50 unités différentes. En gros titre: nous ne participerons pas à la guerre contre les migrants. Nous ne réprimerons pas les luttes sociales. Extrait. Nous ne combattrons pas, nous ne réprimerons pas, nous ne traquerons pas les migrants. Nous, soldats en lutte, sommes contre tout cela. Contre leurs crimes passés et présents. Et là, quand ils disent leurs crimes, ils font référence notamment à l'Europe, à la Grèce, aux États-Unis, à l'OTAN. Nous appelons à un mouvement de masse, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armée grecque, pour bloquer par tous les moyens Frontex, l'OTAN, l'armée européenne, tant que les actions des forces armées dans ce massacre continueront. Nous ne participerons pas à des patrouilles d'arrestation des migrants. Nous voulons aider à démolir les clôtures et non en créer de nouvelles. Qu'aucun soldat ne monte sur des navires pour des missions internationales. Les navires, sous-marins et les avions doivent retourner à leur base, aucune participation à leur ravitaillement. Nous refusons de convertir l'armée grecque en un appareil répressif, que ce soit contre les migrants ou les mouvements sociaux. Nous n'accepterons pas le replâtrage des structures sociales avec du travail bénévole. Pour nous, la menace asymétrique, c'est la guerre qu'ont lancée contre nous les gouvernements et les intérêts qu'ils soutiennent. Réseau des soldats libres Spartacus, traduit par l'Organisation communiste libertaire, texte original sur le site du réseau Spartacus, dictiosspartacos.blogspot.gr. Quelques notes qui me semblent importantes de préciser, à savoir que les manœuvres d'entraînement de l'armée Parménion, donc le contingent grec, ont lieu chaque année. Mais cette année, elles ont eu lieu le long de la barrière que l'Union européenne paie à la Grèce pour maintenir et défendre la frontière avec la Turquie le long de la rivière Evros. L'armée grecque est mobilisée non seulement pour faire le sale boulot de l'Union européenne pour empêcher l'entrée des migrants, mais aussi pour attaquer les travailleurs grecs. Selon le site fsyn.gr, les conscrits du 523e bataillon d'infanterie ont reçu l'ordre de se joindre à un exercice militaire secret à Kozani le mercredi 14 octobre avec des soldats professionnels pour, je cite, « reprendre l'usine Aeval abandonnée qui sert à fabriquer de l'engrais industriel, usine qui avait été reprise par des fauteurs de troubles », et là je citais le commandant adjoint du camp. Les soi-disant fauteurs de troubles n'avaient occupé leur propre usine en faillite que dans une tentative désespérée pour la conserver en l'état, et donc leurs emplois, et pour empêcher les patrons de vendre les actifs. En bref, l'armée a effectué la défense des rapports de propriété capitaliste contre la classe ouvrière. À propos du réseau des conscrits Dictio Spartacos, ce qu'il est et pourquoi il lutte. Tant en Grèce qu'en Turquie, la conscription existe toujours. Les gouvernements des deux côtés de la mer Égée utilisent les jeunes de la classe ouvrière comme soldats et, quand nécessaire, comme main-d'œuvre bon marché. Ces jeunes sont utilisés par le gouvernement au service de la compétition entre les classes bourgeoises grecques et turques pour la domination régionale. Des vues nationalistes et racistes essayent de présenter les deux nations, Turquie et Grèce, comme des adversaires qui se sont combattus plusieurs fois, alors même que les deux pays étaient tous deux membres de l'OTAN. Dans les deux pays, les minorités sont réprimées. Dans les deux pays, la propagande de l'État, de l'armée et des médias exige des gens qu'ils respectent l'unité nationale entre travailleurs et employés pour s'occuper du danger venant de l'autre pays. La Grèce et la Turquie ont prouvé qu'elles étaient les championnes du monde entier en matière de dépenses militaires. Nos peuples souffrent et sont forcés de limiter leurs besoins pour que davantage d'armes soient achetées. En même temps, les industries militaires américaines, européennes, grecques et turques tirent d'énormes bénéfices de la vente de ces armements. Diktios Partakos est actif depuis 1992. Depuis son origine, il vise à créer un mouvement à l'intérieur et à l'extérieur de l'armée. Il est l'élément moteur du mouvement qui a fait annuler les projets du gouvernement grec d'établir la conscription à 18 ans. De plus, il a contraint le gouvernement à limiter la période à 18... Non, limiter à... Il voulait établir que dès 18 ans, tu es conscrit.
Ah,
et eux, ils ont reculé l'âge pour que les gens puissent finir leurs études. Il a contraint le gouvernement à limiter la période du service militaire à 9 mois. Il joue un rôle principal dans le développement du syndicalisme libre pour les conscrits. Et sachant que l'armée grecque participe à des missions internationales dans 15 pays étrangers, Diktios Partakos joue un rôle majeur dans le mouvement qui a bloqué la participation de conscrits à de telles missions. En 2008, après le soulèvement des jeunes des travailleurs qui a suivi le meurtre d'Alexis Grigoropoulos, un jeune de 15 ans, par des policiers, alors que le gouvernement projetait d'ordonner à l'armée de réprimer le soulèvement, il y a eu une énorme réaction dans l'armée. Diktios Partakos a réuni des centaines de signatures de conscrits de 52 unités militaires qui ont exprimé leur opposition à ce plan. Les conscrits ont effectué de petites actions d'info à l'intérieur de leur caserne. Pour ces raisons, il était impossible pour le gouvernement grec de mobiliser les conscrits contre les gens qui se soulèvent. Il s'agissait donc de décrire le réseau Diktios Partakos, je l'ai cité eux-mêmes sur leur site, je le répète, Diktios Partakos, diktiospartakos.blogspot.fr. Et nous devrions entendre, normalement, les mutins de 1917. Mais il semblerait...
J'ai essayé plusieurs manières de passer le titre. Aucun ne répond.
Eh bien, tant pis.
Les mutins se mutinent.
Voilà. En tout cas, je vous invite à découvrir cette chanson qui rend hommage aux mutins de 1917. La plupart... ont été fusillés donc en 1917 et ils ne sont toujours pas reconnus par la France, ne sont toujours pas rétablis, ils sont toujours considérés comme des traîtres à la nation alors qu'ils ont simplement refusé de servir de chair à canon et de transformer le camp d'en face en chair à canon. Voilà.
C'est lancé en fond, on dirait.
Eh bien,
allez, on essaye.
Nous allons les entendre maintenant.
Vous n'êtes pas au monument aux morts. Vous n'êtes même plus dans les mémoires comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes morts.
Non, ce n'était pas une minute de silence supplémentaire. Ça, merci Jacques. C'est bon, ça ressort dans vos enceintes. Voilà. Et si ça ressort dans vos enceintes, bah, je vais en profiter. En ce 16 novembre, anniversaire de Sœur Emmanuelle, pour vous lire un petit texte qu'elle a écrit suite au 11 septembre 2001. Un homme est là. Immergé dans le mystère pascalien. Au pied de cet être pensant, la matière gît, anéantie. quel que soit son prix, que vaut-elle auprès de la pensée ? Et l'esprit, créateur de vie et de mort, quelle est sa valeur auprès de la fraternité humaine ? Que fais-tu là, debout, les bras croisés, ô homme ? N'aie pas peur, tu possèdes en toi le sens de la solidarité. Lutte de toute ton âme contre l'enfer du mal, acharne-toi et tu feras jaillir autour de toi la joie de vivre. Ne l'oublie jamais, ô homme, l'amour est plus fort que la mort. Sœur Emmanuel. Django Reinhardt, impromptu.
Bonjour à tous, moi je vais commencer mon intervention par un petit billet d'humeur. Bonjour à tous, moi je vais commencer cette intervention par un petit billet d'humeur parce que c'est la seule chose que je me sentais capable de faire aujourd'hui pour la radio et même en général dans les conversations avec les amis. Donc voilà, j'écris ceci. Ce qui est arrivé est terrible. Mais ce qui nous attend ne sera pas mieux. Lorsque j'ai appris la nouvelle, vendredi vers 23h30, nous venions de terminer de dîner chez une amie. Nous rions, puis un téléphone a sonné, choc, silence. Quelques échanges, d'un calme extrême, les premières choses qui nous sont venues à l'esprit. Trois personnes, trois réactions différentes, que nous avons accueillies dans le calme. Puis je suis repartie. L'air frais et les quelques minutes de marche qui ont suivi m'ont laissé réfléchir. Plutôt que de rentrer, me pendre à Internet et recevoir en rafale des flots d'informations et de désinformations à la stylistique anxiogène, j'ai fait bouillir de l'eau pour contenir mon propre bouillonnement, préparer le thé et apprécier le silence. J'avais le sentiment de me préparer à une tempête et de recouvrir force et calme qui me seraient nécessaires pour la suite. Triste, bien sûr. Triste pour Paris, mais d'abord désolé pour notre humanité entière qui dégénère. Et ces sentiments faisaient écho à ma première réaction. C'est une catastrophe politique. je voyais déjà se déchaîner médias et politiciens, recyclant le moindre détail sordide pour se faire valoir. Des campagnes électorales surfant sur une vague de sang, et les amalgames les plus tendancieux se faufiler, là où désormais on aurait moins d'énergie pour s'y opposer. Je voyais encore considérer médias et politiques le terrorisme comme une entité à part entière, une menace venue de l'extérieur, un épouvantail trop souvent agité pour justifier frappe, leur guerre, des guerres qui nous reviennent comme un boomerang, car la violence réelle et symbolique, armée et sociale, extérieure et intérieure que nos gouvernements créent, a ses conséquences. Échec. Samedi, dans sa conférence à l'Auditorium des Beaux-Arts, Jeanne Favret-Saada, anthropologue et auteur de 81 ans, auteur notamment de « Comment produire une crise mondiale avec 12 petites images » et « Jeux d'ombre sur la scène de l'ONU », entre autres, a proposé plutôt qu'une minute de silence, une minute de parole. Et elle a débuté par une description des attentats de Bombay 7 ans auparavant, qui avaient fait 166 morts. La première question dont le public a été posée par une femme qui n'a pas attendu que le micro lui tombe entre les mains, pour crier ceci « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Avec bienveillance, Jeanne Favret-Saada a tâché de répondre. D'abord, s'entraider, quand cela se reproduira, car la solidarité est ce qui nous permettra de ne pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur, mais rester en colère, contre les décisions géopolitiques prises, sur lesquelles nous n'avons d'ailleurs aucune emprise, en colère, contre les politiques intérieures, dites sociales, qui créent un terreau favorable à la violence. Elle poursuit. Il nous faut également admettre que cela va se reproduire, et tout faire pour jouer sur certains aspects de ces événements, et en limiter les conséquences et les dégâts possiblement exploitables. Elle conseille enfin de garder son calme et de se poser les bonnes questions. Contre qui se bat-on? Contre qui ne devons-nous pas nous battre? Qui sont les acteurs et qui sommes-nous par rapport à eux? Garder son calme afin d'examiner la situation et déplacer la façon dont les médias prennent le sujet, une vision souvent binaire, des bons contre le mal, simplifiée à outrance et qui nous donne parfois l'impression d'être en plein 1984 d'Orwell. Je ne connais pas encore précisément les pions et leurs déplacements sur le grand échiquier géopolitique. La seule situation de la Syrie, série de frappes parmi tant d'autres, me donne le vertige. L'armée syrienne libre, qui avance de deux cases puis d'une case, Assad d'une case à la fois, la France et les États-Unis en diagonale, et Daesh. Je ne connais pas encore précisément le jeu de la géopolitique, mais je m'informe, et une curiosité immense est née en moi. C'est peut-être ce qui fait encore mon innocence et la naïveté de certaines de mes positions. Mais ce qui m'effraie le plus aujourd'hui, c'est cette déferlante de mots. Politique sécuritaire, état d'urgence, réponse militaire, Sarkozy, frappe aérienne, inflexion majeure en matière de sécurité. Et leurs liens tendancieux, à peine masqués, avec les réfugiés qui, on doit le rappeler, fuient exactement la même terreur qu'est la nôtre aujourd'hui. Alors, n'écoutez pas les médias, ou en tout cas, choisissez-les bien. Je vous conseillerais... très simplement, le journal de France Culture, chaque matin, une radio très agréable à écouter. La lecture du Courrier International également, un article qui s'intitule « Ce que veut vraiment l'État islamique ». Le blog « Résister à l'ère du temps », une très bonne critique avait été écrite au moment des attentats, des attaques de Charlie Hebdo. Et un blog un peu plus léger de Claire Fégreux, qui présente la rhétorique terroriste en images. Je terminerai en citant Marx, qui disait ceci. « Être radical, c'est prendre les choses à la racine ». Alors soyons radicaux dans la remise en cause de notre système, à la fois dans ses actes à l'international, frappe, intervention, coalition, vente d'armes, etc., etc., et son fonctionnement interne, producteur de violence, de discrimination et de division. Choisissons donc bien nos médias, embrassons nos amis, appelons nos grands-mères et faisons de notre mieux pour limiter le désengagement humain que tous attendent de nous.
Et n'écoutons pas que la matinale de France Culture, mais évidemment Radio Campus, 106,6.
Merci.
On passe un petit morceau de musique. Bob Marley, No More Trouble.
Décidément, c'est une minute de silence.
Décidément, eh bien, ça aura été musique ça. De silence à si. Répétition.
Si, il y avait, m'a-t-on dit.
No More Trouble, donc, de Bob Marley. Ah, non, vous n'entendez pas No More Trouble, vous entendez
Moi, je l'entends.
Nos voix. Vous entendez nos voix. Voilà. Donc.
Malheureusement, je connais pas les paroles de celle-là pour vous la chanter.
À moins que quelqu'un ne soit prêt à enchaîner sur sa chronique. Chers amis.
Bah ouais.
Très bien.
Ça s'appelle l'impro, pas le choix. Voilà, il faut pas patiner. Y'a là, y'a là. Vas-y, Justin.
Alors, pour ma part, moi, je vais vous parler de la COP21. Alors, la COP21, qu'est-ce que c'est ? Ça se déroule en décembre à Paris. C'est la 21e conférence des Nations Unies pour le climat. Et depuis plusieurs mois, des associations, des ONG, des collectifs citoyens planifient des actions pour porter la parole des peuples et dénoncer cette mascarade qu'est la COP21. Une COP21 off, une COP21 citoyenne, est ainsi prévue à côté de la COP21 officielle pour que la parole des citoyens ne soit pas confisquée ou inaudible face aux États et aux multinationales, mais au contraire pour qu'elle soit sur le devant de la scène. Donc les organisations y tiennent d'autant plus qu'il y a désormais un large consensus parmi elles sur l'inutilité de la COP21. Les objectifs seront probablement en deçà de ce qui est nécessaire pour éviter les catastrophes. De plus, il ne sera certainement pas obligatoire de se tenir à ces objectifs. Et enfin, il n'y aura a priori pas de financement. Donc les mouvements citoyens tiennent à organiser cette contre-COP21 pour avoir le dernier mot et dénoncer cette supercherie. Or, l'état d'urgence décrété suite aux attentats compliquera les actions des mouvements sociaux. En effet, que dit la loi sur l'état d'urgence et qui impacte donc cette loi qui impacte les mobilisations citoyennes ? Eh bien, peuvent être interdites les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre, peut être ordonnée la fermeture provisoire des lieux de réunion de toute nature, peut être interdite la circulation des personnes ou des véhicules, peut être interdit le séjour dans un département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics, peuvent être prises toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature. Le refus de se soumettre peut être passible d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à 2 mois et d'une amende de 3 750 €. Alors, à part le point sur la liberté d'informer, toutes ces mesures sont déjà à l'œuvre depuis samedi en région parisienne, le reste du territoire connaissant notamment une liberté de circulation restreinte, pour ne parler ici que de ce qui nous intéresse. Alors, se réunir, s'organiser et agir avant, pendant et après la COP21 risque d'être compliqué, quand cela n'est pas tout bonnement interdit. Cela va l'être d'autant plus qu'hier, François Hollande a exprimé son intention de modifier la loi sur l'état d'urgence, loi qui date de 1955 et qui a servi de fondement juridique au décret instaurant l'état d'urgence samedi. François Hollande a annoncé qu'il voulait modifier 2 choses dans cette loi. Son, je cite, périmètre. On peut donc supposer qu'en plus de la liberté de réunion, d'information ou de circulation, d'autres libertés seront impactées. Et l'autre chose qu'il veut modifier, c'est le nombre de jours durant lequel un décret instaurant l'état d'urgence est valide. Actuellement, cette période est de 12 jours. Au bout de 12 jours, le Parlement doit voter une loi pour que l'état d'urgence soit poursuivi. Sinon, il prend fin. François Hollande veut que ce délai passe de 12 jours à 3 mois. Les mobilisations autour de la COP21 seront donc très compliquées, pour ne pas dire purement interdites. Alors que faire ? Abandonner nos idées d'action et de rassemblement ? Ben non, la lutte pour un monde offrant les conditions d'une vie digne pour tous est non seulement juste, mais nécessaire. Elle l'est d'autant plus que les attentats vont servir de prétexte aux politiciens et aux capitalistes pour réaliser tout un tas de politiques antisociales et écocides, et pour reporter sine die des mesures qui vont dans le bon sens. Il faudra donc certainement désobéir aux règles prises soi-disant pour notre bien, pour n'obéir qu'à notre conscience. Alors, ça m'amène à vous parler du collectif Action non-violente COP21. Son but est de favoriser un large mouvement de désobéissance civile, non-violent et déterminé, avant, pendant et après la COP21. Pour cela, Action non-violente COP21, aussi appelée ANV COP21, a plusieurs cordes à son arc. Former des citoyens à la désobéissance civile, libre à eux ensuite d'en faire ce qu'ils veulent par la suite, mais aussi organiser, coordonner et apporter un soutien logistique à des actions de désobéissance non violente. On se retrouve après une courte pause musicale pour parler de ces actions, si tant est que VLC veuille bien fonctionner.
Que la Bourgassine profonde le syndicat nous protège.
Nous ne bougerons pas, il nous protège. Et notre union protège notre syndicat.
Ou noire,
nous ne bougerons pas.
Que ma peau soit blanche ou noire,
nous ne bougerons pas.
Pour noir et blanc,
le boire et les déboires,
on m'aime.
C'est toi notre misère qui reculera.
Un catalogue, tu me diras ce que tu penses.
Alors, parmi les mobilisations citoyennes pendant, avant et après la COP21, il y a notamment la marche mondiale pour le climat des 28 et 29 novembre. Il y a aussi une mobilisation massive le 12 décembre avec des actions de désobéissance civile à la clé appelées D12. Et il y a aussi déjà des actions qui ont commencé, des actions notamment faites par Action non violente COP21. Et par exemple, ce samedi dernier, 14 novembre, dans toute la France et dans le cadre de la campagne pour dénoncer les agissements climaticides de Total, il y avait ainsi 14 actions prévues, et dont deux pour des opérations de réquisition de chaises dans des banques pratiquant l'évasion fiscale. Donc 14 actions annulées déjà en une journée. Alors peut-être avez-vous eu vent de cette campagne de réquisition de chaises, la campagne Faucheur de chaises. Celle-ci est née suite aux scandales à répétition Cahuzac, UBS, HSBC, LuxLeaks ou encore OffshoreLeaks. Il s'agissait tout simplement de mettre en relation deux chiffres. Tandis qu'il y aurait 20 000 milliards d'euros planqués dans les paradis fiscaux, les États se disent incapables de financer collectivement 100 milliards de dollars par an en faveur du Fonds vert pour le climat, qui est grosso modo un budget de l'ONU destiné à financer les politiques de lutte contre le changement climatique dans les pays pauvres par de l'argent donné par les États les plus riches. Donc je le répète, il faudrait au minimum 100 milliards de dollars par an pour financer des projets de lutte et d'adaptation au réchauffement climatique dans les pays pauvres. Et les États riches font mine de ne pas savoir trouver ces fonds, tandis qu'il y a 200 fois plus d'argent dans les paradis fiscaux, selon le groupe de recherche Tax Justice Network. Alors, pour médiatiser ce fléau, qui n'est pas seulement une injustice pharaonique, mais aussi un processus sordide maintenant et renforçant la misère des peuples entiers, l'association Bizi a eu une idée. Des citoyens entrent dans une agence bancaire et en retirent quelques chaises, expliquant qu'il s'agit d'une réquisition citoyenne et que les chaises seront rendues quand les banques auront restitué l'argent qu'elles ont contribué à dérober. Ces chaises sont ensuite confiées à des personnalités, on va dire, ayant moralement irréprochables, tels que des anciens résistants ou des philosophes, Edgar Morin, Patrick Vivray, Suzanne Georges, Alain Caillé, Claude Alfandéry. Et ces chaises seront enfin toutes rassemblées, 196 seront rassemblées, le 6 décembre pour un sommet mondial des peuples pour le climat. Alors voilà, c'était pour... Ne nous démobilisons pas et continuons même si cela devient illégal.
Behind us, we shall not be moved just like. like a tree that's standing by the
together.
We shall not be moved.
We will stand and fight together.
We shall not be moved, just like a tree that's standing by the water.
Radio Campus 106,6 FM et www.campuslille.com, les points sur les i du collectif Davise. C'est au tour de camarade Christophe de parler.
Bien, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye, et puis oublier, c'est se condamner à revivre. La veille des événements plus que tragiques, il n'y a pas de mots, qui ont ensanglanté notre capitale, notre pays, et qui rappelle que la barbarie frappe en tout lieu, je faisais remarquer à une amie que les JT nationaux et autres insistaient sur le fait qu'en une seule journée, il y avait 800 000 personnes en France pour voir le dernier James Bond. Le lendemain, on est passé non pas à un film qui s'appelle Spectre, mais à autre chose, c'est-à-dire une espèce de James Bond infernal sur le terrain. Une espèce de rappel à l'ordre, c'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas simplement devant sa télé et loin à la périphérie, c'est au coin de sa rue, de son café. Alors, je ferai une chronique avec humilité en posant des questions. C'est-à-dire, je ne vais pas faire en quelque sorte une exposition de ceci ou de cela, je ferai simplement des questions. Première question, Bruxelles. Des experts, dont je voudrais savoir, à moins qu'ils ne soient simplement de pro-lecteurs, quels sont leurs titres de noblesse sur le terrain, et qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, j'ai bonne mémoire, avant et après Charlie Hebdo et depuis, et qui se promènent d'un JT à l'autre, nous expliquent qu'à Bruxelles, il y a une commune qui serait un vivier à plusieurs reprises de terroristes. Je rappelle qu'à Bruxelles, on a un triangle. On a à la fois des évadés fiscaux français qui considèrent qu'ils paient trop d'impôts, mais maintenant on va nous expliquer qu'il faut plus de moyens pour la police, pour les sapeurs-pompiers, pour les infirmiers. Donc je trouve que là il y a une espèce de contradiction qu'il faudrait pointer, c'est-à-dire est-ce que ces Français qu'on peut nous vendre comme exemplaires au niveau de je ne sais quelle réussite business d'un seul coup ne sont pas, je ne dirais pas responsables, mais enfin concernés aussi et devant s'interroger sur en quelque sorte leur solidarité très concrète. Et il y a aussi à Bruxelles la Commission européenne qui est présidée par Juncker, qui, tout le monde peut vérifier, était le grand responsable de la corruption et de l'évasion fiscale pour son petit État croupion. Voilà. Ce qui prouve que dans la même ville peuvent parfaitement cohabiter un vivier de terroristes, un homme responsable de la corruption et qui est quand même en poste, et des évadés fiscaux d'un pays dont on vient nous expliquer maintenant qu'il faut plus de moyens pour ceci, plus de moyens pour cela, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, les moyens, eh bien, il faut payer ses impôts, tout le monde comprendra. Deuxième remarque, en ce qui concerne l'état d'urgence. Alors là, j'ai bonne mémoire, la dernière fois, c'était en 1962. En 1962, l'état d'urgence, c'est le général de Gaulle. François Hollande a été conseiller à l'Élysée ainsi que Ségolène Royal. Il est maintenant chef de l'État. Il est issu du Parti socialiste. Et François Mitterrand, résistant à partir de 1942, décoré de la Francisque et qui a reçu le responsable de la persécution des Juifs, René Bousquet, lors de son second septennat à Lacé, dans sa résidence secondaire, eh bien, avait décrété que le général de Gaulle, c'était le coup d'État permanent. D'autres ont dit que c'était porté pour Mitterrand le coup d'éclat permanent. Je trouve que François Hollande, issu directement de la même mouvance et des catacombes de l'Élysée de François Mitterrand, s'inscrit très douillettement dans, en quelque sorte, alors, l'institutionnalisationnalisation de l'état d'urgence, en point d'interrogation.
Petite précision sur l'historique de l'état d'urgence. Mitterrand l'avait instauré en Nouvelle-Calédonie en 84.
Absolument.
Et la dernière fois que ça a été instauré en France, c'était en 2005 dans les banlieues après les
émeutes. Et François Mitterrand, c'est pour ça que j'ai commencé ma chronique comme « Oublier, c'est se condamner à revivre », etc. François Mitterrand a été ministre responsable sous la 4e République du dossier de l'Algérie française. Bien. Autre remarque. En ce qui concerne maintenant, tout simplement, Daesh. On nous explique maintenant, j'entends des chiffres mirobolants, que Daesh a un trésor de guerre de 30 milliards. Bien. Financé par des contrebandes de tout ordre, des trafics sordides d'êtres humains et principalement le pétrole. Alors, tout le monde sait, enfin, tout le monde sait que c'est la Turquie qui achète. Enfin, la Turquie, notre allié dans l'OTAN. Et en ce moment, il vient d'avoir un sommet avec François Hollande, Obama, etc. et la Turquie. Je me pose des questions. Depuis quand on n'a pas demandé au camarade président Erdogan de faire un peu le ménage ? Bien. D'autre part, la Turquie aussi réprime les Kurdes. Or, ce sont les Kurdes qui sont en première ligne sur le terrain. Ils ne sont pas dans leurs avions face à Daesh. Donc là, il y a un petit problème par rapport aux alliés. Un petit problème par rapport à nos alliés. Et la Turquie laisse aussi passer, en quelque sorte, des personnes qui viennent de Syrie et qui viennent commettre des actes terroristes barbares dans nos démocraties. Donc là, par rapport à la Turquie, il y a une petite explication de texte. Et d'autre part, je tiens à rappeler que ces 30 milliards, s'il y a 30 milliards, vous savez, on ne peut pas rentrer, 20 milliards, je pense qu'ils ne sont pas dans des petites valises. Donc ils sont dans des banques. J'espère qu'on ne va pas découvrir qu'elles sont dans des banques qui seraient des filiales de grandes banques tout à fait prestigieuses et qu'on nous aille nous expliquer, comme d'habitude, que les présidents directeurs généraux de ces grandes banques ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe dans leurs filiales. On a déjà eu de telles explications de texte. Donc, comme le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, nous parle de transparence, eh bien, j'espère que la transparence sur où est l'argent, dans quelle banque. Et quand Mme Marine Le Pen sort de l'Élysée et parle de financement de milliardaires saoudiens ou qataris, eh bien, mais quels sont ces milliardaires ? J'espère qu'on ne les a pas déjà reçus à Paris au Ritz. J'espère qu'ils ne font pas leurs emplettes chez Louis Vuitton ou chez Hermès, qui appartiennent à M. Arnault, qui se trouve à Bruxelles, c'est-à-dire le mélange des genres et des compromis. Je sais bien que l'argent n'a pas d'odeur, mais la transparence, c'est ça. L'argent, il est où ? Et puis d'autre part, le pétrole, ça se promène pas avec des petites pipettes. Il faut des camions, des gazoducs. Je ne comprends pas. On a des satellites. Je pose des questions. On n'a pas réussi à bombarder ce truc-là. Bon, la France vient de riposter au bout de 48 heures sur des cibles stratégiques, donc satellites, etc. Cocorico. Alors, j'ai envie de dire pourquoi on ne l'a pas fait avant. Le ministre de l'Intérieur vient de nous annoncer, je viens de le voir tout à l'heure, un catalogue très martial d'interpellations, de perquisitions, de mosquées fermées, de suspects classés S arrêtés. On vient d'apprendre la transparence qu'il y en avait 5000 en France. Et on nous explique qu'ils étaient surveillés à distance. Ah bon ? Mais enfin, la dernière fois qu'il y a eu en France une rafle, elle a été très vite organisée et très discrètement. C'était en 1942, c'était les Juifs de France, avec beaucoup de discrétion et que la coopération de la police de l'époque, je ne dis pas que la police actuelle, ça n'a strictement rien à voir, mais enfin, le jour où j'ai eu ce mot de l'esprit de le dire à des policiers français, j'ai fini en garde-vue, j'ai eu un mot d'esprit de trop, et ensuite on a présenté, comment dirais-je, des excuses pour me dire que c'était un malentendu. J'avais un mot d'esprit déplacé et un policier en face de moi qui ne connaissait pas son histoire nationale. Bon, ce qui prouve que quand on veut être efficace, on peut l'être. En France, à Paris, on est capable de rafler des hommes, des femmes et des enfants en 24 heures avec l'occupant nazi et la coopération de forces à ce moment-là dites nationales pétainistes. Bien, voilà. De chez mauvais esprit, je me permets de rappeler l'histoire. Continuons les informations. Donc tout le monde a bien compris que je parle de financement, tout le monde a bien compris que cela date pas d'hier, tout le monde a bien compris que le pétrole, ça ne se promène pas dans des petites pipettes et que les satellites peuvent savoir où sont les camions et où sont les pipelines. Et puis l'unité nationale. Alors l'unité nationale, tout le monde sait qu'on a des élections régionales, je suis frappé que, comme disait le général de Gaulle, les affaires de boutiquier, tout le monde sort de l'Élysée en racontant sa petite histoire, etc. etc. Alors, M. Sarkozy, lui, déclare en sortant ancien chef de l'État. Je tiens à le rappeler, peut-être que des gens l'ont oublié. Est-ce que des gens oublient qu'il était chef de l'État ? Il n'y a pas 1000 ans. Alors, il dit, les Français ne sont plus en insécurité, ce qui est très chic au niveau de l'unité nationale. Mais lui, est-ce qu'une fois dans sa ville, il était en insécurité ? Il vient de Neuilly. Et il a un service rapproché, payé par l'État. J'espère qu'il a exigé que ce soit doublé. Voilà, enfin, question d'humour.
J'ai pas surveillé son statut Facebook s'il avait cliqué sur « en sécurité ».
Non, je dis simplement que je rappelle cette phrase du général de Gaulle. À certains moments de l'histoire exceptionnelle, il y a les boutiquiers et il y a ceux qui simplement se taisent, connaissent les dossiers, vont sur le terrain et essaient de servir leurs valeurs d'humanisme, mais d'épargner le sang, certes, mais d'être efficaces, tout simplement. D'autre part... Continuons. En ce qui concerne des déclarations du ministre de l'Intérieur sur la coopération des polices européennes. Enfin, Bruxelles, donc ce quartier. Enfin, si la police belge est incompétente, faute de moyens, je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier, moi, bah, il fallait l'aider. Parce que si on coopère avec des polices incompétentes, à quoi ça sert ? On parle des frontières. Bon, en ce qui me concerne comme citoyen français, j'ai déjà été dans ma vie deux fois contrôlé la frontière belge. Je n'ai pas eu de problème, bien sûr. Et j'ai même été contrôlé une fois avec mon camarade Baptiste à Paris. N'est-ce pas ? On s'était garé et puis on nous a demandé de fouiller le camion qu'on avait pour voir si on n'avait pas des armes. Nous avons tout à fait des profils de terroristes, tout le monde aura compris. Ce qui prouve que là aussi je me pose des questions. Car le terroriste Abdel Salem Salah a pu passer et revenir en 24 heures et traverser la frontière franco-bruxelloise. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire une grande différence entre les déclarations martiales et l'efficience de certaines mesures sur le terrain. D'autre part, toutes ces mesures, mosquées salafistes fermées, perquisitions administratives, etc., le ministre dit... On accélère. Ah bah oui, oui, forcément, on accélère. Les choses se sont accélérées. Mais enfin, j'en viens de dire trop peu, trop tard. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Enfin, pourquoi on n'a pas bombardé ce qu'on vient de bombarder à Raqqa avant ? Pourquoi ? Je pose des questions. Je n'en sais rien. Moi, je pose des questions. Voilà. Alors, chacun pensera ce qu'il veut. Je tiens simplement à rappeler aussi que je suis aussi frappé de certains journalistes qui sont toujours surexcités de cette adrénaline et qui ont des commentaires effarants, parfois après avoir interviewé des personnes frappées par leur émotion, c'est-à-dire un total décalage. La couverture de Charlie Hebdo, c'est Génération Bataclan. La dernière fois, c'était « Je suis Charlie ». Ce n'est pas à coup de slogan et ce n'est pas simplement... en ne mettant pas tous les dossiers, financement, responsable, compromis, etc., etc., sur la table, que l'on pourra éclairer nos lanternes. J'espère que les responsables politiques, militaires, spirituels, et chacun sera à la hauteur de la situation et ne faisant pas d'amalgame outrancier comme d'habitude. Et je vais laisser la parole à Baptiste parce que je ne suis pas capable en ce moment de lire pour lire avec une touche d'humour laïque un texte...
Je ne sais pas si c'est la touche d'humour laïque par rapport à ce que tu disais, pourquoi on ne les a pas frappés avant. Je trouve le texte que tu as choisi un peu en décalage.
Pour ça que j'ai choisi, parce qu'il est en décalage. J'ai dit que ma chronique s'était posée un certain nombre de questions.
Ok, donc je lis pour toi. Voilà. Conclusion de ta chronique. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Saint François d'assises.
Merci Baptiste d'avoir lu ce texte que je ne peux pas lire. Pour mes camarades auditeurs, je tiens à préciser que les deux citations « Oublier, c'est se condamner à revivre » et « L'histoire ne répète pas, elle bégaye » sont de Winston Churchill, ce qui prouve que j'ai de l'humour. Je peux commencer par citer Churchill et terminer par Saint-François d'Assise. Voilà, ça s'appelle « La civilisation ».
Vendredi dernier, des attentats ont été perpétrés à Paris, faisant au moins 129 morts et plus de 300 blessés. Ce sont les nôtres qui ont été tués. À la terrasse d'un restaurant, dans un bar, dans la rue, dans une salle de concert, les nôtres. Tués par des assassins au nom de la barbarie, de l'islamisme comme ils disent, cela n'a rien à voir avec l'islam, vous le savez, nous le savons, il n'est besoin de le redire. Tués sans raison, parce qu'ils étaient innocents, impliqués dans aucun conflit, mais pas par hasard. Pas par hasard parce que le message est envoyé. Votre pays est en guerre contre nous, et tant que cela durera, aucun d'entre vous n'est en sécurité. Comme l'a écrit un camarade, Daesh fait de la politique. Détestable, assassine, barbarique, certes, mais ils font de la politique. Notre pays est en guerre, ne soyons pas dupes, cette guerre, ces guerres, censées être dirigées contre Daesh, cette guerre est menée de front par les puissances impérialistes, états-uniennes, européennes ou russes. Ces guerres n'ont pour but ni le bien, ni la justice. Aucune guerre n'a ses buts, aucune ne les a jamais eues, ne les aura jamais. Ces guerres impérialistes visent l'appropriation par les puissances capitalistes des ressources du Moyen-Orient, notamment en pétrole. Non, non, rien n'a changé. L'argent est toujours le nerf de la guerre. Nous le savons et nous l'avons toujours su, vous le savez. Ne soyons pas dupes. Pourtant, les va-t-en-guerre sont de sortie. Plus forts que jamais. Nous les voyons déballer le tout sécuritaire et le tout militaire. L'un en dedans, l'autre au dehors. La guerre contre l'ennemi désigné, Daesh et les islamistes, ici et là-bas. Ici où l'amalgame, le racisme ambiant, le nationalisme se répandent comme la pourriture, les islamistes, les musulmans, les arabes, l'ennemi intérieur, appelez-le bouc émissaire. Cela devrait nous rappeler quelque chose. La bête immonde grandit et nous la nourrissons encore. Là-bas où la France n'est pas en guerre depuis vendredi, mais depuis des années, les interventions impérialistes se multiplient, une guerre par an au compteur pour Hollande. Aujourd'hui, l'Irak et la Syrie. Là-bas, que les bombes viennent de Daesh, d'Al-Assad, de France, de Russie ou des États-Unis. Là-bas, c'est le 13 novembre tous les jours. Oui, les deux sont liés. Oui, l'un est la cause de l'autre et inversement. Oui, la barbarie impérialiste engendre la barbarie terroriste et réciproquement. Le cercle est vicieux. Vos guerres, nos morts. Nous ne céderons pas. Ni à la peur du terrorisme, ni à l'appel sécuritaire et nationaliste. Nous voulons la levée de l'état d'urgence et l'arrêt des guerres impérialistes. La seule réponse face à la guerre et au terrorisme, c'est notre unité, l'unité des peuples, par-delà les origines, les couleurs, les religions, par-delà les frontières. Nous devons nous unir et nous battre contre la barbarie, tant impérialiste que terroriste. Contre ceux qui veulent nous taire, ceux qui nous tuent, car nous choisissons la vie, et eux répandent la mort, la nôtre. Nous ne serons jamais plus de vos Verdun. Nous ne voulons plus de leurs Auschwitz. Nous ne voulons ni de vos guerres, ni de vos nations, ni de votre police, ni de votre crise, ni de votre système. Nous ne serons jamais de votre unité nationale. Nous ne servirons pas vos intérêts, nous ne mourrons plus pour vous, et nous ne vous laisserons pas nous diviser, diviser les peuples, assassiner, pourchasser, enfermer, contrôler, déporter. Nous sommes le monde, et vos intérêts ne sont pas les nôtres. 129 morts à Paris, 129 de trop, 129 parmi nous. 200 000 morts en Syrie, de trop aussi, des nôtres aussi. Vos guerres, nos morts. La dernière chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même et de la haine qui lui succède, car elle sera notre fin.
Toi, mon ami de Liège, Paris ou Roubaix, des palais ou des tours, oui, de Saint-Pétersbourg. J'ai le poing vers le ciel, comme un combat sans fin. J'ai le poing qui se serre pour te prendre la main, pour te dire que mon cœur.
Désolé de couper, Amis de Liège de Damien Saez, que vous pouvez retrouver facilement. Voilà.
Alors, je voudrais simplement rappeler un des principaux théoriciens du troisième djihad, dans son appel à la résistance islamique mondiale, riche de 1600 pages, publié en décembre 2004, un certain Abou Moussab al-Souri, propose de creuser ce qu'il appelle des fractures culturelles et confessionnelles dans les sociétés européennes, en particulier la France, et il veut que ces fractures soient approfondies, transformées en failles. Il escompte qu'elles se traduiront par des situations de guerre civile entre des populations d'origine musulmane et des islamophobes, ceux-ci devenant très nombreux à cause des attaques djihadistes, d'après lui. Et, en retour, les populations musulmanes se radicaliseraient en réaction, jusqu'à considérer les djihadistes comme leurs héros. Voilà le piège que nous tend très clairement ce type d'attaque, piège dans lequel il ne faut évidemment pas tomber. Et tous celles et ceux qui tomberont dans ce piège, consciemment ou inconsciemment, se feront les alliés objectifs de Daesh. C'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose quand même, c'est que ce certain Abou Moussab al-Souri, a été arrêté à l'automne 2005 au Pakistan, a été livré ensuite aux Américains avant d'être remis aux Syriens. Et d'après des sources jugées fiables, le régime de Bachar al-Assad l'aurait libéré à la fin de 2011 comme nombre de djihadistes et prisonniers de droit commun, quelques mois avant le déclenchement de la guerre civile, pour qu'il inocule le virus djihadiste au sein insurgé et que ceux-ci s'aliènent, par ricochet, le soutien occidental. Les dés sont pipés, on l'aura compris. Et pour parler d'un autre aspect de ces dés pipés, le G20 a eu lieu en Turquie.
10 secondes.
Et la Turquie, c'est vraiment une belle. Erdogan, en tout cas.
On y revient la semaine prochaine.
À Elba.